Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business. Un grand merci d'être avec nous. On est ensemble, vous le savez, comme chaque soir, jusqu'à 21h à la radio, à la télé, 21h30, pardon. Radio, télé, puis les replays, les podcasts. Pour une émission, je vous le disais tout à l'heure, exceptionnelle, puisqu'on va évoquer le tourisme spatial qui nous fait tous rêver, qui fait rêver aussi les milliardaires américains. Mais vous allez le voir, des belles boîtes françaises aussi dans l'aéronautique qui commencent à s'y intéresser. D'ailleurs, quand on parle de tourisme spatial, on parle aussi d'exploration spatiale, hein, parce que, évidemment, tous ces équipements qui vont nous permettre peut-être un jour d'aller tutoyer les étoiles, eh bien, sont aussi là pour faire de la recherche et pour envoyer tout simplement aussi des astronautes dans l'espace. Jean-Baptiste Huette va nous accompagner tout au long de cette soirée. Salut JB.
Salut François.
Ravi de passer Merci. Cette heure et demie en ta compagnie. Évidemment, tu es journaliste à BFM Business, on te connaît. Tu es un spécialiste, entre autres, de l'aéronautique et du spatial. Et on vous a concocté une émission vraiment hyper intéressante et hyper sympa. Tout à l'heure, Michel Messager, qui est fondateur de l'Institut européen du tourisme spatial, sera avec nous. Il est auteur d'un livre incroyable sur le tourisme spatial avec une deuxième édition. François Chopard, qui est ingénieur aérospatial et fondateur et directeur général de Starburst, sera aussi avec nous. Je le disais tout à l'heure, Laura André-Boyer, qui est instructrice de vol parabolique, sera avec nous aussi en visio depuis Cologne. C'est elle qui a entraîné un certain Thomas Pesquet.
C'est la incroyable. C'est la seule femme française à entraîner les astronautes. Elle a entraîné une trentaine d'astronautes de l'Agence spatiale européenne, notamment. Donc c'est une...
Et oui, parce que, évidemment, ça a des contraintes physiologiques sur le corps humain, le fait de monter dans l'espace.
Peut-on envoyer n'importe qui dans l'espace ?
Tout à fait. Alors... Et est-ce qu'il faut s'entraîner auparavant ? Parce qu'évidemment, ça va changer la donne aussi de ce tourisme spatial qu'on peut imaginer. Et puis, on recevra deux startups très intéressantes aussi, des startups françaises qui visent la Lune, si je puis me permettre. Zefalto et Stratoflight, ce sera entre 21h et 21h30. Mais pour débuter, où est-ce qu'on en est ? Parce que c'est vrai, Jean-Baptiste, on évoque souvent ce sujet dans Tech & Co, le tourisme spatial, mais il est difficilement palpable. On voit des expériences de ci, de là, on voit ce qui est en train de se tramer, mais est-ce que c'est du concret aujourd'hui ?
C'est un sujet qui est multiple. Alors déjà, c'est un sujet... Alors, pour être très honnête, j'avais oublié, mais que ça datait de si longtemps. Le premier touriste de l'espace, c'est 2001, avec Denis Tito, qui était un millionnaire qui avait dépensé 20 millions de dollars pour partir dans la Station spatiale internationale avec les Russes à bord d'un Soyouz, donc c'était le tout premier touriste spatial. C'est vrai qu'aujourd'hui, schématiquement, on distingue deux types de voyage spatial. On a le voyage suborbital, c'est-à-dire qu'on envoie un vaisseau ou une capsule pour faire une expérience de quelques minutes d'apesanteur. On voit évidemment la courbure de la Terre, on fait l'expérience de l'apesanteur et on revient vite sur Terre. Et puis de l'autre côté, on a les vols orbitaux. Alors là, pour le coup, le touriste va rester en orbite, comme son nom l'indique. Alors soit à bord d'une capsule, ce sera peut-être un petit peu plus tard, soit pour rejoindre la station spatiale comme l'ISS, ou bien d'autres stations spatiales.
On va en parler dans un instant, pour un
séjour qui est plus long. Et donc c'est là-dessus que se positionne notamment SpaceX ou alors son concurrent Axiom Space. On a aussi Blue Origin qui se positionne un petit peu là-dessus.
Blue Origin qui est la boîte de Jeff Bezos.
De Jeff Bezos, absolument. Et depuis 2001, on dénombre approximativement une vingtaine de touristes de l'espace. Alors, soit des militaires italiens, soit des milliardaires de divers pays.
Des comédiens aussi.
Des comédiens aussi. Avant le comédien, il y a eu Guy Laliberté qui était le patron du Cirque du Soleil, c'est pour vrai. Le coup. William Shatner. L'acteur William Shatner qui est en plus le commandant Picard
et puis qui
est le plus âgé à être parti dans l'espace. Il est parti à 90 ans. On en reparlera tout à l'heure parce que ça a des conséquences évidemment.
Mais c'est intéressant, ça veut dire que un être humain de 90 ans peut supporter un voyage dans l'espace. Alors c'était un vol, on va dire, parabolique là.
Oui, alors supporter, on en reparle, parce que quand il est revenu sur Terre, il était quand même particulièrement amoché physiquement et surtout psychologiquement.
Ça l'a traumatisé.
Quand il est revenu sur Terre, il a regardé Jeff Bezos, il lui a dit, mais honnêtement, tu te fous de moi. Tu ne m'as pas préparé suffisamment à ce que j'ai vu. Et c'est vrai que quand William Shatner s'est retrouvé à voir ce que disent souvent d'ailleurs tous les astronautes, tous les spécialistes de l'espace, quand vous regardez la Terre de l'extérieur, ce qui évidemment nous arrivera peut-être un jour ou peut-être jamais, j'en sais rien du tout, vous avez un déclic en vous. Et finalement, on se rend compte de la fragilité de l'écosystème, de la finesse incroyable de l'atmosphère, des choses comme ça. Donc, quand vous revenez sur Terre, en tout cas,
c'est un choc. Ça peut être un choc.
Il a d'ailleurs publié un livre quelques semaines après. Donc, il avait engueulé Bezos en lui disant, mais t'aurais pu me prévenir. Tu aurais pu mieux me préparer au voyage spatial. C'est peut-être un sujet, voilà. Côté tarif.
Oui.
Parce que le voyage spatial reste et restera encore pendant peut-être quelques décennies une niche qui va être réservée
aux gens aux plus fortunés hein,
ouais. que certains appellent des pionniers, effectivement. Il faut compter entre 250 000 dollars en prix de base pour un vol avec Virgin Galactic. Et si vous voulez prendre Axiom Space, hein, allez vous installer dans quelques années dans une station spatiale pour faire comme Airbnb, 55 millions de dollars. Donc ça, voilà, on part entre 250 000 dollars et 55 millions.
Ouais,
voilà, il faut ça reste pour l'instant vraiment
ça reste vraiment réservé aux plus fortunés, mais on peut imaginer que bien évidemment toutes ces entreprises travaillent sur non pas un tourisme de masse, mais en tous les cas industrialiser un peu tout ça pour que les prix baissent. On peut l'imaginer et l'espérer.
Il y a déjà une concurrence féroce, j'allais vous dire. C'est la nature qui déjà va s'occuper de faire le travail.
Hein. Oui, il va y avoir une concurrence naturelle,
10, 15, 20, enfin, on a de grosses entreprises de tourisme spatial, on a des nouvelles qui arrivent. On verra celles qui vont survivre, celles qui ne vont pas survivre. Mais on en a des grosses qui ont du mal. SpaceX, pas de problème. Avec la fusée Falcon qui part comme...
Parce qu'il a un business parallèle d'envoi de satellites qui est florissant.
Aucun problème. Richard Branson, le pauvre, ça fait un moment qu'il n'est plus dans l'espace. Richard Branson a eu beaucoup avec Virgin, donc il a eu énormément de problèmes techniques ces derniers mois, à tel point qu'à un moment, les investisseurs commençaient à regarder Virgin en disant, mais mon coco, ça ne va pas pouvoir continuer.
Parce qu'il a un système un peu particulier, hein. C'est un avion.
Il a un gigantesque avion sur lequel il vient placer, on verra sans doute des images tout à l'heure.
Un lanceur, voilà. Alors si vous êtes avec nous à la télé, on vous le montre. C'est un avion hors norme, un truc incroyable, c'est gigantesque.
Dessus, voilà, un espèce de planeur hypersonique incroyable qui va à une vitesse et donc qui va faire...
Donc l'avion monte en altitude,
exactement,
et là, après, le vaisseau...
Pour ceux qui nous regardent à la télévision, voilà ce que vous pouvez voir. Il y a le lâcher du petit vaisseau.
Et donc William Shatner était là-dedans.
Alors non, William Shatner était dans une capsule. Lui, il n'était pas dans celui-là.
C'était une fusée.
Il était avec Bezos. Richard Branson. Je vais y arriver. Et donc Richard Branson a eu beaucoup de problèmes techniques pour arriver à faire ça. Ça paraît simple quand on voit les images, mais Dieu sait que c'est particulièrement compliqué.
Branson qui a testé ça. Hein.
Il a testé lui-même. Absolument. Tout comme Jeff Bezos a testé lui-même sa capsule, comme Elon Musk aussi a testé Crew Dragon aussi sa capsule à une époque. Il y a même Boeing qui se lance là-dedans. Alors Boeing, effectivement, on va pas revenir sur les difficultés de la cabine.
Ils ont deux trois chats fouettés.
Mais Boeing a aussi des difficultés avec sa capsule, parce que Boeing a une capsule qui s'appelle Starliner et il y a des années de retard. Donc c'est très compliqué. On ne va pas dans l'espace comme ça en claquant des doigts. Honnêtement, il y a Elon Musk qui, ces 10-15 dernières années, a surpris tout le monde, parce que tout le monde se moquait de lui il y a 10-15 ans quand il disait « moi j'irai dans l'espace ». Et bon, voilà. Après, ce voyage spatial, on va en parler avec vous, nous pose une foule de questions absolument invraisemblables. Est-ce que l'espace est destiné à devenir un territoire de masse, où on va avoir des touristes qui vont peut-être... C'était la crainte des...
Avec peut-être demain des d'immenses fusées qui seraient devenues des gros A380, des charters de l'espace.
Ce qu'on verra, comme on voit aujourd'hui au bord de nos côtes, des paquebots gigantesques avec 5 ou 6 000 personnes à bord. Est-ce qu'on verra demain, comme on peut le voir dans certains films...
Oui, d'immenses aéronefs qui pourraient...
C'est une question qui se pose. Ouais. Comment se gère l'espace civil et l'espace militaire? Tous nos satellites qui sont autour de la Terre sont absolument vitaux pour nous, satellites d'observation, satellites de défense. Donc, il y a un combat qui s'est déjà engagé avec les militaires. Florence Parly, ministre des Armées, il y a trois ans, était furieuse quand elle parlait de ce sujet, parce qu'elle disait, mais on est dans l'espace Far West. Et elle souhaitait, en tout cas, les États souhaitent réglementer aussi. Donc, il y a toute cette question-là. Et puis, bien sûr, on en reparlera, il y a la question environnementale. Voilà.
C'est vrai que ce sujet arrive à un moment... où on se pose des questions concernant ne serait-ce que les transports en avion, on va dire. Et là, est-ce que c'est pas un peu surréaliste de se dire qu'on va prendre des fusées ou des gros vaisseaux pour aller dans l'espace?
Au même titre, François, qu'on a eu ces dernières années un mouvement qui nous devenait des pays du Nord sur le flight shaming, la honte de voler parce que ça pollue. Naît depuis quelques années, quelques mois, une sorte de space shaming.
Et
qui peut potentiellement freiner l'essor du tourisme spatial.
Alors, on a parlé beaucoup d'Américains, avec donc Branson, Jeff Bezos, Elon Musk, mais il faut savoir qu'on a aussi des initiatives françaises que l'on doit à notre fleuron de l'industrie aéronautique. Il s'agit d'Airbus. Et Vincent Germain est avec nous sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur chez Airbus. Merci d'être avec nous. Défense and Space. Vous êtes aussi le chef de projet Starlab. Parce que c'est vrai, JB nous le disait tout à l'heure. Voilà, il y a des, on va dire, des initiatives françaises hein, pour emmener des humains dans l'espace. Et bientôt, il y aura donc, grâce à Airbus, une station en orbite basse qui sera fabriquée, je crois, en association avec un industriel américain, je crois. C'est ça ?
Exactement, tout à fait. Je rectifie, c'est pas moi le chef de projet Starlab, c'est un Allemand, il se trouve, mais j'ai intensivement participé à la mise en place de ce programme. Effectivement, Airbus s'est associé avec une entreprise américaine qui s'appelle Voyager Space. Et on a apporté toute la connaissance et un concept de station spatiale qu'on avait élaboré par avance avec dans certains programmes institutionnels et sur nos fonds propres. Et le rapprochement de ces deux entreprises, Voyager et Airbus, permet de sortir un concept qui aujourd'hui est très efficace. Parce que vous l'avez très bien présenté tout à l'heure, le spatial, ça coûte, mais ça coûte pas uniquement parce que on n'est pas bon, parce qu'on n'est pas efficace, mais parce que physiquement, pour aller là-haut, il faut des moyens. Et ces moyens, on ne peut pas y déroger. À moins de trouver des futures technologies qui apparaîtront peut-être dans 100, 1000 ans, j'en sais rien.
Et c'est pour ça que ce sont les milliardaires américains qui investissent, on va dire, sans compter, j'ai envie de dire, voilà. parce que ils ont l'argent.
Alors, oui, tout à fait. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi un problème de société que vous n'avez pas évoqué, mais aujourd'hui, les États n'ont plus assez d'argent pour entretenir le spatial, et ils poussent à aller s'appuyer sur des commerciaux, sur des milliardaires, pour en tirer les bénéfices. Donc on renverse un peu le paradigme où avant c'était les États qui développaient ces technologies très complexes. Et aujourd'hui, les États s'appuient sur les commerciaux pour ensuite pouvoir en tirer les bénéfices. On parlait tout à l'heure de les aspects militaires. Très probablement qu'il y a des aspects militaires qui vont bénéficier de développement réalisé grâce à ces milliardaires.
Mais le meilleur exemple, monsieur, c'est la NASA, finalement, qui commande des missions à un opérateur privé qui n'est autre que SpaceX et donc Elon Musk.
Exactement. Donc, dans le cadre de Starlab, le projet qu'on a en commun avec Voyager, c'est justement ce qui se passe. C'est la NASA qui a fait un programme qu'ils appellent Commercial Leo Destination, en anglais, qui vise à ce que la suite de la station internationale ne soit plus étatique, mais soit pilotée par des commerciaux et que eux, ils ne fassent plus qu'utiliser un service à bord.
Parce que Jean-Baptiste, excuse-moi, je te coûte, mais ce qui est intéressant, c'est que on arrive à la fin de la station spatiale,
ouais, exactement.
Voilà, qui va mourir de sa belle mort. Je crois que tout est programmé et que le successeur, en fait, de ce lieu, ce sera en fait un financement totalement différent avec des perspectives aussi totalement différentes.
Ce que disait Vincent, hein, le New Space a complètement révolutionné l'accès à l'espace aujourd'hui. Les États effectivement lâchent progressivement la main au profit des entreprises privées. Et là quand même avec Starlab qui est censé, si je crois, prendre quand même la suite de la station spatiale internationale. Et je trouve ce sujet vraiment, cet exemple vraiment intéressant, Starlab, parce que je trouve qu'on est dans une charnière. On a connu, enfin, on a tous vu ce qu'était l'ISS, la Station Spatiale Internationale, avec ces espèces de tubes dans lesquels il faut essayer de progresser en faisant attention que le marteau soit bien accroché.
À la fois technologique, mais rustique.
Oui, c'est ça, exactement. Un petit peu, il y a cette petite rusticité, comme ça, avec tout est accroché au mur, etc. Et là, Starlab, je trouve qu'on change d'univers. En tout cas, dans ce qui nous est présenté, on change d'univers. J'ai presque l'impression de voir ou d'imaginer les films de science-fiction qu'on a tous pu voir avec des capsules, avec plusieurs étages, avec des véritables espaces
plus,
de vie.
Plus de design, finalement.
Plus de confort, en fait. Est-ce que c'est un peu l'idée aussi?
Alors, tout à fait. Ceci dit, l'enjeu de Starlab, ce n'est pas le tourisme. On a parlé beaucoup de tourisme spatial avant. L'enjeu de Starlab, c'est un laboratoire scientifique en orbite. Donc, ce qu'on essaie d'apporter, c'est un optimal d'investissement par rapport au retour scientifique en orbite. Pourquoi un laboratoire scientifique en orbite ? Parce que la microgravité est un endroit où on peut développer des médicaments qu'on n'est pas capable de développer sur Terre, faire pousser des plantes qu'on n'est pas capable de faire pousser sur Terre. Les Chinois sont en train d'essayer de faire pousser du riz en orbite qui sera beaucoup moins sensible au changement climatique, par exemple. Il y a plein d'autres exemples, je ne les connais pas tous, je ne suis pas spécialiste organique, mais voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'optimiser scientifiquement. Alors, c'est vrai que les images qu'on vous montre là sont des images où on voit du confort, etc. Ça n'empêche que dans le travail qu'on fait aujourd'hui, on essaie de voir comment utiliser au mieux cet espace pour la partie scientifique. Et aujourd'hui, dans une station qui est lancée en un seul fois, sans assemblage en orbite, qui va être opérationnel très rapidement. Vous allez avoir la capacité de la Station Spatiale Internationale, sauf la partie russe. Donc, pour vous montrer le truc, si on mettait la Station Spatiale Internationale à côté, on verrait la différence. Et on joue sur les nouveaux lanceurs, le diamètre, c'est-à-dire que l'espace est au carré du diamètre, et cette capacité d'avoir de l'espace à l'interne nous permet de mieux optimiser ça pour la science. Donc, c'est un des enjeux. Et là, derrière, c'est quoi? C'est le coût.
Et là, Vincent, vous soulevez une question qui est fondamentale. Envoyer Starlab en une seule fois.
Oui. Aujourd'hui, alors que l'ISS, ça a été du Lego.
Et oui. Aujourd'hui, sur le papier, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est capable de le faire. C'est Elon Musk avec Starship.
Oui.
Starship, c'est son vaisseau géant qu'il a expérimenté pour une troisième fois encore la semaine dernière. Oui. Le vol, d'ailleurs,
qui n'est pas totalement au point, d'ailleurs.
Qui est loin, qui est très loin d'être au point. Il y a eu trois tentatives. Les deux premières ont été médiocres. La troisième s'est très bien déroulée. Oui. Alors certes,
mais elle n'a pas pu réatterrir prévu.
Alors, on ne l'a pas récupéré, mais ce n'était pas le but. On a pu faire du transfert d'ergol en vol, enfin des choses quand même assez extraordinaires. Et en termes de charge, en termes de volume, seul aujourd'hui SpaceX, donc les Américains, il y a quand même une certaine dépendance pour le coup. Ce que ça veut dire, que pour des futures stations spatiales et l'essor du tourisme spatial, on va être à nouveau dépendant des Américains, enfin, qui seront les seuls à avoir une fusée de taille conséquente.
Ou peut-être Ariane 6.
Ariane 6 n'aura pas la taille pour pouvoir envoyer des choses aussi conséquentes.
Alors, malheureusement, non. C'est une réalité. Hein. Effectivement, ce Starship est un enabler pour ce genre de choses. Et le savoir-faire d'Airbus nous a permis d'optimiser l'utilisation de Starship pour le bien de laboratoires scientifiques en orbite. Et ça, c'est la technologie au service non pas du commercial, etc., mais au service de l'optimisation.
Pardonnez-moi, vous avez conçu Starlab en pensant à Starship.
Exactement. Si on arrive à obtenir la capacité de l'ISS, sauf la partie russe, en un seul lancement, c'est parce qu'on a été là. Et parce qu'on a cherché à comprendre comment ça nous permettait d'optimiser. C'est vraiment l'essentiel.
Donc alors, vous travaillez avec les équipes de Starship de manière conjointe sur ce projet ?
On n'a pas besoin pour l'instant, parce que le principe, c'est quoi ? Le lanceur est défini aujourd'hui, à peu près, parce qu'on sait tous que quand les lancements se font, ils sont en train de faire des essais, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont...
On a d'ailleurs vu des images de l'intérieur en plein vol la semaine dernière, ce qui était une première.
Oui, le show.
Incroyable. Hein.
Alors, peut-être que ça va un peu évoluer, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un manuel lanceur qui dit il y a tel volume, telle hauteur, et si vous regardez les dimensions de Starlab, eh ben vous verrez que c'est la hauteur de la coiffe du lanceur Starship, le diamètre, on prend toute la place. Et c'est dans un but d'optimisation. Et donc, effectivement, pour l'instant, on sera dépendant de Starship. Et le rapport entre Ariane 6 et Starship fait que ça sera une autre génération de lanceurs. Je veux juste dire un mot sur l'aspect... On a l'impression que c'est milliardaire et c'est ce New Space invente des choses très nouvelles. Quand on regarde Starship, c'est plutôt une invention industrielle qu'une invention réelle de technologie. Il n'a pas inventé un nouveau booster, mais il en a mis 33... Et il sait les mettre ensemble, il sait les produire vite, etc.
Donc il a augmenté une technologie qui était déjà présente.
Et sa force, c'est d'utiliser des technologies éprouvées.
Oui,
c'est-à-dire
qu'il
ne va pas les chercher...
Il ne prend pas trop de risques, finalement.
Il en prend quand même, mais il va les prendre sur l'industriel, il va les prendre sur la réutilisabilité, il va progresser.
Vincent, juste une question, parce que vous disiez que votre Starlab fonctionnera au début pour la recherche. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à creuser un peu votre projet, on voit Hilton... Dans vos partenaires potentiels. Hilton, c'est quand même une chaîne d'hôtels. Ils vont pas là-bas pour faire de la recherche, quand même. Alors, donc, il y a peut-être aussi une bribe de tourisme spatial derrière tout ça.
Alors, non, il n'y a pas vraiment de bribe de tourisme spatial. Ceci dit, nos partenaires américains ont peut-être dans la tête d'aller après lancer une deuxième station.
Donc, Voyager Space.
Voyager Space a peut-être dans la tête d'aller lancer une station spatiale pour faire du tourisme. Hilton, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils font de la recherche dans la partie tourisme, enfin habitation spatiale. Quels sont les enjeux de l'habitation dans le spatial? Quels sont les problèmes que ça pose et comment on les résout? Par exemple, il y a beaucoup de bruit dans une station spatiale parce qu'il y a une ventilation énorme, sinon le CO2 s'accumule et on a des problèmes en microgravité. Ils regardent des systèmes pour que le confort des astronautes soit meilleur. Donc Hilton, il travaille là-dedans. Et nous, ce qui nous intéresse dans le consortium aujourd'hui, c'est qu'ils vont nous aider, parce qu'à bord, il va y avoir des astronautes, ils vont nous aider à optimiser, comme ils optimisent dans un hôtel, si dans vos chambres d'hôtel, je ne parle pas du grand luxe, mais je parle des hôtels optimisés, ils savent exactement quelle surface il faut pour être à peu près bien, comment on organise les choses pour que ce soit
la chambre,
pratique.
La salle de bain...
Et donc, ils vont nous aider dans l'optimisation de l'espace intérieur. Mais c'est sûr que dans d'autres programmes, il pourrait aider à aménager pour du tourisme. En tout cas, nous, Airbus, c'est pas du tout notre but. Ils nous aident vraiment dans ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire mettre les choses en place à l'intérieur de manière à ce que ce soit le plus efficace pour les astronautes.
On arrive au bout du temps. Juste une dernière question, malheureusement. Un tout petit mot. C'est prêt? Vous en êtes où dans le développement? On est sur 2028, 2030 en termes de date?
La date de lancement prévue aujourd'hui, c'est 2028. Ce sont des programmes complexes. Il y a beaucoup de développement.
Ils vont du retard, en plus.
Donc, pour l'instant, on est dans les temps. Toutes les revues qu'on a faites sont dans les temps. On est au début du développement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été impliqué dans le programme. C'était pour essayer de s'assurer qu'on allait en mettre les choses en place correctement et aller assez vite. Très probablement, d'ailleurs, qu'on a un peu de marge encore dans la Station Spatiale Internationale pour prendre la suite, puisque elle est prévue pour être désorbitée en 2030, mais on doit pouvoir probablement la prolonger encore un peu après. Ce qui laisse un peu de marge.
Merci beaucoup Vincent Germain d'être passé par le plateau de Tech & Co pour cette spéciale donc l'avenir de l'espace et pourquoi pas le tourisme spatial. Vous êtes donc ingénieur chez Airbus Defence and Space et vous participez donc à ce projet Starlab.